Dieu accomplit toujours ses promesses. On voit ça à travers la Bible, même si des fois, il semble que le temps de Dieu ne soit pas notre temps à nous. Pour les hommes, par contre, la réussite, lorsque Dieu accorde de très grandes bénédictions, la réussite ne nous réussit pas toujours, loin de là. Et l'histoire d'Israël, en général, est là pour nous enseigner qu'il est plus, quelque part, et paradoxalement, plus facile d'être à Dieu dans l'opposition que plus facile d'être fidèle à Dieu dans l'opposition que d'être fidèle à Dieu dans la prospérité. Et l'histoire de Salomon nous enseigne qu'il ne s'agit pas de bien commencer sa vie, mais il s'agit de bien la terminer. Grâce à Dieu, Dieu a pourvu au Messie. Alors on va conclure les chapitres 1 à 11 du premier livre des Rois ce matin. On va faire beaucoup de lectures qui mentionnent Salomon, qui ne sont pas dans ce texte, et une paire de passages également des chapitres 1 à 11 du livre des Rois. Alors l'histoire de Salomon, son histoire se trouve dans la grande histoire de la Bible, dans la grande histoire aussi du peuple d'Israël. Alors dans le Nouveau Testament, au chapitre 7, on trouve un résumé condensé de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Et donc Étienne parle ici, fait un discours, et il parle de la fuite de Moïse dans le désert. Il en est à ce moment-là où Moïse fuit dans le désert parce qu'il avait tué un Égyptien pour défendre un Israélite. Donc je fais la lecture dans Actes chapitre 7, verset 35. Vous n'êtes pas obligé de suivre dans mon livre tous les passages, je vais en lire beaucoup. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui est apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites « Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï avec nos ancêtres. Il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. Verset 39, nos ancêtres n'ont pas voulu obéir, mais ils l'ont repoussé. Et dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » En effet, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. À ce moment-là, ils ont fait un veau, ils ont offert un sacrifice à l'idole et se sont réjouis de ce que leurs mains avaient fabriqué. Alors Dieu s'est détourné d'eux et les a laissés adhérer les corps célestes, comme cela est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des sacrifices, des victimes des sacrifices pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? Vous avez porté la tente de Maloc et l'étoile de votre Dieu Rephan, ces images que vous avez faites pour adorer aussi, je vous déporterai au-delà de Babylone. Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait donné l'ordre de faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nos ancêtres l'ont reçu, l'ont introduit sous la conduite de Josué dans le pays conquis, sur les nations que Dieu a chassées devant eux, et elle y est restée jusqu'à l'époque de David. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob. Verset 47, « Mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. » Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, comme le dit le prophète, le ciel est mon trône, la terre, mon marchepied, quelle maison pourrez-vous nous construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourrait être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? On voit dans cette histoire que le peuple de Dieu devait mener une longue lutte contre l'idolâtrie. Canaan est le pays de la collusion entre immoralité sexuelle et idolâtrie. Les Canaanites étaient particulièrement immoraux. La Bible rapporte l'histoire, la triste histoire de Sodome et Gomorre. Et les peuples de Moab et les Ammonites étaient issus de cette culture-là. On trouvait les divinités de Baal et d'Astarté. C'était les divinités de la fécondité. C'était eux que l'on adorait pour avoir de quoi manger et de quoi boire. Et leurs prêtresses pratiquaient la prostitution sacrée. Le peuple d'Israël avait croisé le peuple de Moab avec la triste histoire de Baal Péor dans Nombre 25, 1, 3. Vous pourrez voir ce passage. Moloch était la divinité des Ammonites et on lui sacrifiait des enfants. 2 Rois 23, 1. Kemosh, pareillement la divinité des Moabites, et on lui sacrifiait aussi des enfants. 2 Rois 2, 27. Par la conquête de Canaan, les Israélites devaient être l'instrument de Dieu pour juger les peuples de Canaan et les remplacer, tout simplement. Le peuple de Dieu devait donc mener une longue lutte contre l'idolâtrie. Et le peuple de Dieu avait profondément besoin d'un sauveur. Depuis la sortie d'Égypte, il avait régulièrement chuté dans l'infidélité, dans l'incrédulité. Après la mort de Josué, la conquête de Canaan s'était plus ou moins, avait progressivement cessé. Et pendant la période des juges, dès qu'un juge disparaissait, le peuple revenait et faisait ce qu'il voulait, c'est-à-dire, bien souvent, illimité, les Cananéites. Et le dernier chapitre du livre des juges rapporte des épisodes dramatiques de cette époque. Le peuple de Dieu avait besoin d'être lui-même délivré de l'idolâtrie. Dans cette histoire, on voit que Dieu n'avait jamais abandonné son peuple. Inlassablement, Dieu avait toujours ramené à lui et pardonné son peuple. Dieu avait donné dernièrement donc David, qui avait délivré Israël de ses ennemis et préparé la construction du temple. Et c'était Salomon qui avait la mission de le construire, un temple terrestre fixe où le peuple de Dieu pourrait trouver le pardon et adorer Dieu. Dieu souhaitait être au milieu de son peuple. Et la responsabilité du peuple était simplement de lui rester fidèle. L'histoire de Salomon dans la grande histoire. Et Salomon donc, son élévation et sa chute, juste un résumé de ce qui s'est passé dans ces 11 chapitres que je vais introduire par la lecture de Néhémie. Néhémie a vécu bien plus tard. Il était gouverneur de Jérusalem sous la domination des Perses. Et lui aussi parle de Salomon. En décrivant la situation de Jérusalem à son retour de voyage auprès de l'empereur de Perse, se situe ce texte. Donc, Néhémie revient et il trouve une triste situation à Jérusalem. Néhémie 13, 23. À la même époque encore, j'ai vu des Juifs qui avaient installé chez eux des femmes asdodoniennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlait l'asdodien, mais ne savaient pas parler la langue des Juifs. C'était comme une langue étrangère pour eux. Je leur ai adressé des reproches, je les ai menacés de malédiction, j'ai frappé quelques-uns de ces hommes, leur ai arraché les cheveux et leur ai fait prêter serment au nom de Dieu en disant: vous ne donnerez pas vos filles en mariage à leurs fils, vous ne prendrez pas leurs filles comme épouses, ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas à cause de cela que Salomon, le roi d'Israël, a péché? Aucun roi n'était son pareil, parmi toutes les nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Pourtant, même lui, les femmes étrangères l'ont amené à pécher. Nous faut-il donc apprendre que vous commettez aussi un grand crime et que vous faites preuve d'infidélité envers notre Dieu en installant chez vous des femmes étrangères? En effet, tout avait bien commencé pour Salomon. Dieu avait promis à David en 2 Samuel 7:17, « Quand ta vie prendra fin, que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison à l'Éternel de mon, à l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et dans les chapitres 1 et 2 qui suivent le livre de Samuel, nous avons vu Salomon accéder au trône et s'y installer sans coup de force. Au chapitre 3 et 4, Dieu lui-même vient au-devant de lui et lui accorde la sagesse et la gloire. Et nous avons vu comment cette sagesse s'est déployée, comment elle a apporté la prospérité, comment elle a apporté la justice. Au chapitre 5 et 6, nous avons vu le temple de Dieu sortir de terre à la gloire de Dieu. Et au chapitre 7, on a assisté à la construction du palais du roi et à la fabrication des ustensiles qui étaient destinés pour le temple. Tout est fluide, tout est beau dans ces passages-là et tout donne envie de vivre quelque chose de pareil. Chapitre 8, la mission sera accomplie. Chapitre 8 décrit la dédicace du temple. On est au sommet de l'œuvre et l'œuvre de Salomon s'achève. La façon dont Dieu prend possession de sa maison y est rapportée. Également la magnifique prière de Salomon pour que ce temple soit le lieu où l'on trouve le pardon de Dieu. Et nous avons lu cette prière de bénédiction. Donc voici quelques extraits, vers chapitre 8, versets 56 à 61. Salomon a prié ainsi. « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël, conformément à toutes ses promesses. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos ancêtres. Qui ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous respections ses commandements, ses prescriptions et ses règles qu'il a données à nos ancêtres. Qu'il fasse en tout endroit à son serviteur et à son peuple Israël. » Verset 60. Ainsi, tout le peuple, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Mission accomplie. Hélas, le chapitre 9 et 10, on commence la descente vers une chute qui sera abyssale. Dieu donne une réponse positive mais conditionnelle à la prière de Salomon. Ensuite est décrit la suite du règne de Salomon, la façon dont la renommée de son Dieu, du peuple d'Israël, de son Dieu et la sagesse de son roi. Cette renommée attirait au loin les autres peuples. On y perçoit également les failles chez Salomon, des désobéissances claires à la parole de Dieu. Et le chapitre 11 décrit le résultat du croissant attachement de Salomon aux femmes interdites. Ces dernières constructions seront des lieux consacrés au culte des idoles de Canaan, après avoir construit le temple de l'Éternel. Salomon construira des temples d'idoles. Salomon va ouvrir son cœur au culte de Astarté et de Moloch, celui à qui on sacrifie les enfants. Et cela malgré l'apparition d'ennemis, tels des avertissements de Dieu avant l'incontournable jugement qui devait l'atteindre, le jugement de Dieu. L'histoire de Salomon, donc, une élévation, l'histoire d'une élévation et d'une chute. Cette histoire de Salomon, quand il était jeune, nous renseigne sur les qualités du Messie. On voit le bénéfice d'un Messie qui serait humble. Le jeune Salomon, c'est beau de voir la façon dont le jeune Salomon s'est laissé conduire vers la royauté, comment il n'a pas cherché à la saisir, à l'attraper, à la poursuivre. Le jeune Salomon a demandé l'aide de Dieu pour accomplir la mission qu'il avait en tant que roi d'Israël. Le bénéfice d'un Messie qui serait humble, le bénéfice d'un Messie qui serait un fils obéissant également. On voit que Salomon a suivi les instructions de David, son père. Le jeune Salomon était également aimé de Dieu comme un fils, nous dit la parole de Dieu. Et c'est les livres qu'a écrit Salomon, le livre des Proverbes, c'est un livre unique où Dieu, dans ce livre, s'adresse personnellement à nous, en nous disant « mon fils, écoute ». Le bénéfice d'un Messie qui serait obéissant, qui serait un fils obéissant. Le bénéfice d'un Messie qui serait sage, bien évidemment. La sagesse de Salomon a dévoilé les secrets du cœur et la justice a pu être rendue. La sagesse de Salomon a attiré la reine de Séba depuis les extrémités de la terre. Le bénéfice d'un Messie qui serait sage. Le bénéfice d'un Messie dont la gloire viendrait de Dieu. Salomon n'a mené aucune guerre, même pas de guerre économique. Et pourtant, la gloire que Dieu lui a donnée a surpassé toute celle des autres royaumes. Le bénéfice d'un Messie dont la gloire vient de Dieu. Et enfin, le bénéfice d'un Messie qui soit capable, un homme capable, un bâtisseur qui achève son ouvrage. Le temple construit par Salomon a été terminé dans les moindres détails. Tout a été terminé. Tout a été achevé. Il a mené à terme cette entreprise. Là aussi, ça nous parle de la façon dont le Messie opérera. L'histoire de Salomon le jeune est formidable, mais l'histoire de Salomon âgé, hélas, nous rappelle l'humanité déchue. J'ai remarqué qu'on retrouve dans la chute de Salomon les mêmes ingrédients que dans la chute de notre premier parent qui s'appelait Adam. Adam avait l'innocence et il était dans le jardin d'Éden et il jouissait des visites de Dieu. Tout était parfait, tout était bien. Et Salomon, lui, avait la sagesse qui venait de Dieu et il était dans un palais doré à côté du temple de Dieu. Tout semblait bien, tout semblait devoir continuer comme ça. Les deux n'auraient pas dû désobéir, mais les deux ont fini par désobéir. Salomon âgé, ou le malheur d'un homme négligent. Salomon a négligé la lecture de la parole de Dieu en Deutéronome 17, 16 à 20, où il avait bien prescrit que le roi n'est pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer de beaucoup de chevaux, ce que Salomon a fait. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel, ce que Salomon a fait. Qu'il n'accumule pas l'argent et l'or, ce que Salomon a fait. Quand il montera sur son trône royal, Il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, des lévites, et il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin d'apprendre à craindre la crainte de l'Éternel, son Dieu, à respecter, à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions. Salomon a visiblement négligé la lecture de la parole de Dieu. Le malheur d'un homme négligent. Le malheur d'un homme oublieux. Il a oublié les avertissements que l'Éternel, son Dieu, lui avait donnés lors de sa deuxième apparition. Quand un roi 9, 4 et 5, quant à toi, si tu marches devant moi, comme l'a fait ton père David, avec un cœur intègre, avec droiture, en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, si tu respectes mes prescriptions, mes règles, j'affermirai pour toujours ton autorité royale en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David lorsque je lui ai dit, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. 1 roi 9, 4, 5. Salomon avait visiblement oublié ce que Dieu lui-même lui avait dit. Salomon semble avoir oublié ses propres enseignements. Lorsqu'inspiré par l'Esprit Saint, il a écrit en Proverbe 3, chapitre 1, versets 1 à 8. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté, la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-les dans toutes tes voies, et les rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Le malheur d'un homme oublieux, le malheur d'un homme séduit, enfin. Salomon s'est laissé séduire par les femmes interdites. Proverbe chapitre 5, versets 1 à 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. C'est lui qui a écrit ça. Tends l'oreille vers mon intelligence afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Certes, les lèvres de l'étranger le ruissellent de miel et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est comme l'absinthe, coupante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Le malheur d'un homme séduit et le malheur d'un homme captif. Salomon est devenu esclave de sa passion pour les femmes interdites. Proverbe chapitre 1, versets 30 à 32. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils, qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur roi, ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Salomon a fini comme un homme captif de ses passions. On pourrait en rester là, mais on ne va pas en rester là, parce qu'un autre Salomon est venu, on l'appelle plutôt notre David ou notre Adam, c'est Jésus. Et Jésus, il a réussi là où Salomon a échoué. Jésus a réussi. Salomon a certes bâti le temple du vrai Dieu au milieu d'un paysage terrestre rempli de temples d'idoles. Il y en avait partout. Et Salomon avait construit là au milieu le temple du vrai Dieu. Mais Salomon n'a pas su se garder lui-même, ni son royaume de l'idolâtrie. Est-ce que nous aurions pu faire mieux? En tout cas, pour Néhémie, absolument pas. Nous n'aurions pas fait mieux que lui. Il fallait donc qu'un autre fils de David apparaisse. Il fallait donc qu'un autre fils de Dieu apparaisse, qu'il soit humble, qu'il soit obéissant, qu'il soit sage, qu'il soit glorieux, qu'il soit capable et surtout qu'il ne vieillisse pas. Qu'il ne vieillisse pas, qu'il ne tourne pas au vinaigre comme a tourné au vinaigre Salomon. Je vous invite à retrouver le texte de Philippiens chapitre 2, on va lire les versets 5 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est le modèle de l'humilité. Jésus-Christ est le modèle de l'obéissance. Jésus-Christ a été élevé dans la gloire. Jésus-Christ est enfin sage et capable de bâtir le temple de Dieu, non pas le temple de Salomon, mais l'Église, le temple nouveau, le temple de la nouvelle alliance. Il est capable d'entailler chaque pierre et de terminer l'ouvrage. Enfin, Jésus-Christ est vivant pour toujours et il ne vieillira jamais. On va terminer en relisant ensemble ces prophéties d'Ésaïe du serviteur de l'Éternel qui ont été appliquées à Matthieu. On les voit qu'elles sont appliquées à juste titre à Jésus-Christ. Et on va lire ces merveilleuses prophéties qui nous projettent dans le temps présent, aujourd'hui, mais qui nous projettent jusque dans l'avenir. Ésaïe 42, prophète Ésaïe, les chants du serviteur de l'Éternel. Ésaïe 42, verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix. Il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera pas, il ne se relâchera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Les îles, c'est nous qui sommes par rapport à Jérusalem si loin. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter avec les peuples, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent dans l'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. Et on pourrait terminer avec Ésaïe 55, le dernier chant de l'Éternel. Qui parle de Jésus-Christ, de sa mort. 53:10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus-Christ est vivant pour toujours. Il est à l'œuvre et la prophétie s'accomplira. Il terminera ce qu'il est venu pour commencer. Amen. Oui, Seigneur, merci parce que tu termineras cette œuvre que tu as commencée sur la terre, que tu as commencée et on voit qu'elle s'est accomplie puisque nous qui sommes dans les îles, loin de Jérusalem, nous avons la possibilité d'honorer, de louer le nom de Jésus-Christ et d'adorer le Dieu trois fois saint et de marcher loin de l'idolâtrie. Merci Seigneur de ce que tu continueras en nous. Tu achèveras cette œuvre. Salomon n'avait pas réussi à garder ni lui, ni son peuple de l'idolâtrie, mais tu, Seigneur, es capable de nous garder, de nous façonner, de nous transformer et de nous faire apparaître devant toi, saints, sans défaut, sans tâche, avec tous nos frères et sœurs, comme dit l'Écriture. Merci pour le grand roi que tu es, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais aujourd'hui, pour ce que tu feras encore, et pour ta fidélité inébranlable, et pour parce que tu resteras pour toujours le Fils bien-aimé de ton Père, en qui il trouve tout son plaisir. Dans le nom de Jésus.